à l'occasion de l'exposition Run 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 à la Villa Arson à Nice, qui se tient du 2 octobre au 30 décembre 2016, l'équipe du Radio a posé ses machines pour pouvoir couvrir l'exposition. Julie Portier, Théo Robin Langlois et Simon Niquez, nous nous sommes entretenus avec Jean Dupuis, Simon Ripoll-Hurier et Lorraine Beau étaient aux machines, assistés de Marie Limoujou et Margot Luché. Jean Dupuis a connu l'heure de gloire des artistes Run Space à New York et son loft a été lui-même un haut lieu de vie artistique. Sa vie, il en parle d'ailleurs beaucoup pour cet artiste qui a parfois été affilié à Fluxus et dont justement l'art et la vie sont souvent confondus. On lui demande d'abord de nous décrire le vinyle qui est édité par la Villa Arson à l'occasion de ses 90 ans. Il nous lit quelques-uns de ses anagrammes et puis il nous raconte ensuite comment est née l'idée de performance collective suite à l'invitation en 1974 par The Kitchen. Il finit par nous raconter comment il a acheté un loft à Massionas et comment il a quitté New York au début des années 80.
Là, vous me gênez un petit peu.
Vous ne connaissez pas la couverture.
Heureusement, je pense que je n'aurai pas de réaction, en tout cas sur l'image.
Ah oui, donc est-ce que vous pouvez présenter rapidement ce vinyle, puisqu'on va peut-être en utiliser quelques
extraits. Je suis dans le Rio, un fleuve, qui est une petite rivière qui se jette dans le Var. C'est du côté de Roquesteron, et c'est un paradis, tout simplement. Quand je suis arrivé là, c'était en 1984. Le village a deux parties, une en haut où j'ai acheté une maison tout de suite. Tout de suite parce que je me suis aperçu en arrivant que du côté de la terrasse de cette maison, déjà presque toute neuve, d'ailleurs qui avait été refaite récemment pour être vendue, je m'aperçois sur la carte que la terrasse ouest, nord-nord-ouest, s'appelle à une montagne qui s'appelle la Tête du Puits.
Ah oui.
Donc ça m'a tellement amusé que je dis, j'ai pas de problème, j'achète la maison. On était trois, il y avait trois chambres, trois salles de bain, c'était luxueux, c'était bien. Et je revenais donc directement, c'était 8 jours après mon arrivée à Paris, en 1984, quand j'ai quitté New York City. Voilà.
Il y a une deuxième image donc là, au dos du vinyle, parce que là, on commentait l'image de la pochette.
Alors, l'image, ça, c'est... Je pense que j'avais 3 ans, mais je n'en suis pas sûr. Ce qui m'amuse, c'est que je suis le seul à me reconnaître. Personne ne me reconnaît. Pourtant, j'ai plein d'amis qui me connaissent très bien, mais rien n'est fait, ils ne me reconnaissent pas du tout. Et moi, c'est comme si... Oh, ça, c'est dur. Excusez-moi, je ne peux pas vous parler. C'est qui ? Bon, en plus, bon, ben, on va arrêter le... Allô ? Je peux pas parler, je suis dans un studio d'enregistrement.
Bon.
Bon. Ok, excusez-moi. Ok, alors qu'est-ce que l'on disait ?
Parler de cette photo de vous à 3 ans où personne vous pouvait vous reconnaître ou vous reconnaissez.
Non, personne ne peut me reconnaître. Enfin, c'est bizarre.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce vinyle surtout ? Qu'est-ce qui est enregistré ?
J'ai enregistré c'est des anagrammes. C'est deux textes. Alors, je peux vous lire si vous voulez les textes.
Ouais. Oui.
Alors ici, c'est en 2014, quand cacao, brun, gris, net, 10 grains, 20. Cette jolie photo me fait penser que Lulu portait alors un bracelet en cuivre à son poignet gauche. Point. Un miel, 5 ifs en été, 68 lettres 2 fois, J, D pour Dupuis. Donc quand il y a ces lettres en haut, ces mots en haut qui représentent des couleurs, ça me permet de faire une équation de lettres. Donc quand j'écris le texte, ça commence par cette jolie photo et ça finit par bracelet en cuivre à son poignet gauche. Ensuite, je cherche, avec toutes les lettres qui manquent en haut et en bas, des mots qui représentent des couleurs, qui font des mots de couleurs. C'est facile, personne ne comprend. Oui, il y a quelques personnes quand même. Ici, c'est à Paris, R pour copyright, à Paris 2015, l'été, T doré, Pi. Alors là, le texte, excusez Lulu, mais c'est bien moi, ici, sur la photo. Elle a été prise en mai 1928, point. Zeste, buis, mur, D pour Dupuis, 44, deux fois lettres. Il y a un X pour dire deux fois, qui correspond à excuser, le X d'excuser, etc. Enfin bon, on ne va pas entrer dans le détail, on n'en finirait plus. Donc ce texte, alors c'est là ce que je disais à Eric, c'est que je trouve que s'il y a une quinzaine de textes, une vingtaine de textes que je lis, on devrait offrir au lecteur la vue qu'il puisse lire. Parce que sans la vue, tout ce qui est phonétique, il y a beaucoup une partie phonétique, certes, c'est dommage, ça tire à peu près la moitié de son sens, à mon avis. Donc voilà, on en est là. C'est jamais fini. Alors, question ? Vous avez peut-être une question ?
On peut changer, on va revenir un peu en arrière, à New York, dans les années 70. On avait commencé à en parler au repas du loft dans lequel vous habitiez. Est-ce que vous pouvez le décrire ? Parler de ce qui s'y passait un peu ?
Vous êtes arrivé en 68 à New York, je crois, 67 ?
En 67 à New York, oui. En 67 à New York, je suis parti, oui. J'ai quitté une femme que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas comment j'ai fait. Toujours est-il que je me suis retrouvé à New York et qu'un de mes amis qui achetait mes peintures, pas exclusivement, mais presque, m'envoyait des chèques, donc j'étais gâté. Et je suis arrivé en septembre, et au mois de juin, enfin, entre-temps, j'ai rencontré une organisation, un Chilien qui s'appelait Claudio Badal, citons-le parce que c'est un de mes amis intimes, qui m'a dit « Je travaille pour IET, Experiment in Art and Technology », organisé par Rauschenberg et Billy Clover. Donc ils ont comme programme de marier les artistes aux ingénieurs ou vice-versa. Donc il me dit « Si tu as une bonne idée, on te donnera un ingénieur pour la réaliser ». Et en effet, j'ai eu une très bonne idée, c'est-à-dire que j'ai fait faire parce que j'étais maladroit et que j'avais pas d'outils, que j'avais encore un petit loft pas assez grand pour fabriquer des objets. J'ai quelqu'un donc que j'ai trouvé pour fabriquer une caisse où une partie haute était occupée par un projecteur qui donnait sur un espace fermé qu'on voyait à travers une vitre en façade, et grâce à un stéthoscope électronique qu'on mettait sur le cœur du
spectateur.
C'était
le public ?
Du public.
On suit.
Voilà, oui. Chacun son tour. Il faisait marcher avec un amplificateur, un haut-parleur qui était placé sous une membrane dont on voyait le carré où il y avait une poudre rouge plutôt sang, éclairée par un ray de projecteur. Et c'était intéressant, ça s'appelait cône pyramide parce que la forme de ce ray était conique au départ, c'était un cercle, et carré à l'arrivée. Donc c'était intéressant de pouvoir faire une pièce qui était bizarre, impossible à faire. on ne voyait pas, grâce à la lumière, la courbe qui devenait carrée. C'était magnifique. C'était résoudre j'ai des trous de mémoire.
La quadrature du cercle.
Heureusement que vous êtes là. Voilà. Billy Clouver et Rauschenberg préparaient une exposition. Il y avait à peu près 200 artistes, des jeunes artistes. J'étais le plus vieux, je crois. Enfin, peut-être pas, mais peut-être, oui. Au musée de Brooklyn, Brooklyn Museum. Et Pontus Hultén, de son côté, était deux Suédois, donc lui a préparé une exposition à High Technology au MoMA à New York. Il y a eu un concours de 200 et j'ai gagné le concours. Je vous dis que j'étais plutôt étonné. Enfin, c'est comme ça, et ça a été mais magnifique, c'est ça, New York City, c'est que du jour au lendemain, j'étais un héros. Véritablement rigolo, quoi, c'était rigolo. J'étais dépassé, heureusement, je parlais pas l'anglais, j'avais quelques mots, j'ai étudié l'anglais, mais très tellement, comme tous les Français, ou une grande partie, j'étais pas bon. Donc je comprenais rien, et je m'exprimais plutôt pas du tout. Donc j'ai rencontré que des gens qui parlaient français et anglais à la fois. Et d'ailleurs j'ai rencontré aussi une jeune femme avec laquelle j'ai vécu 7 ans et qui était aussi qui parlait français couramment. Voilà, et qui était professeur d'archéologie et qui était une intellectuelle. Donc on a fait deux pièces parce que j'étais le Pontus Hultén a voulu que je fasse partie des classiques qui représentaient tous les classiques depuis Vinci jusqu'à nos jours. Voilà. Donc c'était intéressant quand on entrait dans le musée que ça ne marchait pas avec quelqu'un. Elle marchait automatiquement. J'avais dit que je ne voulais pas le faire et puis finalement on s'est laissé faire. Et on entendait boum boum le cœur de chaque personne qui faisait. On n'entendait pas les gens qui faisaient marcher la machine, on attendait le cœur automatique. Parce que les machines, c'était plutôt assez pas très sonore, à cause du feedback. Donc il y avait une limite dans le son, mais elle était suffisante pour que, par la suite, l'année suivante, je puisse faire un concert avec six cœurs et une grande caisse, avec six... La machine, je l'avais appelée Heartbeats Dust, le cœur qui bat la poussière. Et alors que je l'avais appelée Cone Pyramide, ce qui m'appelait plus, et en fait, je pense que c'était plus intéressant comme ça. Mais peu importe mon opinion là-dessus.
Du coup, je fais une petite ellipse temporelle et oui. J'arrive à 1973, où c'est l'année où vous avez organisé un premier groupe show dans votre loft. Et c'est vrai que ça nous intéresse, cette question de comment des artistes prennent en charge en fait, la monstration d'œuvres, puisque là, l'exposition en ce moment à la Villa Arson, c'est sur les artistes Run Space. Et c'est vrai que le début des années 70 à New York, c'est aussi le moment où il y a beaucoup d'artistes Run Space qui s'ouvrent, The Kitchen, des lieux comme ça. Et vous avez un peu fait partie de ce mouvement-là.
Alors, j'étais dans la galerie Sonaben. C'était une galerie importante à cette époque. Castelli, Sonaben, qui était marié d'ailleurs, qui ne l'était plus, mais qui ont été. J'avais été invité après ces expositions à la technologie à New York. Tuckman, un autre agent d'art, avait organisé une grande expo où il y avait 16 artistes qui représentaient chacun une industrie. Là, c'était beaucoup, beaucoup d'argent engagé. Donc, moi, j'étais le premier invité parce qu'avec ma machine, c'était... J'étais gâté. Donc je me suis retrouvé à Los Angeles, au County Museum, pour faire cette expo. Et là, j'ai présenté un moteur diesel de bateau énorme, très gros moteur, qui s'appelait Fire Fuel, c'est-à-dire Fire, Earth, les éléments naturels. Fuel, ya Fuel, Air, enfin peu importe, j'oublie. Il y en a quatre. Et on sentait l'air. J'avais fait un siège de charrue accroché au gros moteur. On s'assoyait. Il y avait un throttle, un accélérateur de vitesse. On voyait le feu à travers un miroir qui sortait de la chambre à combustion. C'était très, très intéressant. Ça faisait un bruit terrible. On accélérait. Ça vibrait. Et on sort. La pièce principale pour moi, c'est que il y avait un tube qui sortait du tuyau d'échappement avec une bulle comme ça, énorme, transparente, et qui montrait la merde qui sortait du tuyau. C'était vraiment dénonciation de la pollution. J'étais hippie. Peut-être c'est une de ces raisons-là. Toujours est-il que la compagnie Cummins Engines a interdit l'exposition, a voulu l'interdire. Le lendemain, moi, je suis parti parce que mon frère était malade en France. J'ai dû partir en France immédiatement. Tuckman m'a téléphoné tout de suite à Paris, chez ma mère, pour me dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Le Cummins voulait absolument retirer la machine. Il y a eu un scandale dans les journaux, évidemment. Cummins qui monte la pollution de ses moteurs, c'était quand même original. Ou pas banal, en tout cas. Je dis, il n'y a aucune raison. Tuckman a dit, tu as la loi pour toi, il n'y a rien à faire. Et quelques semaines après, ils étaient fous, tu vois. Ils étaient fous. Tuckman me dit, ils vont t'envoyer la machine en France. Tu l'auras. J'ai dit, ça pourrait 3 semaines, ça suffit. J'ai fait le scandale, c'est tout ce que je voulais faire. Et j'ai reçu la machine plus tard. D'autres circonstances, on sera encore là demain matin si je vous racontais toute ma vie. Toujours est-il qu'en rentrant, j'ai dit à Sonamen, écoute, je ne vais plus rester avec toi parce que j'ai fait un scandale politique cette fois et je ne vais pas avoir le cul assis entre deux chaises. J'attaque, comme tous les artistes, on était très engagés, en tout cas en ce qui me concerne, et d'autres artistes, beaucoup d'artistes, contre la guerre du Vietnam. On attaque l'État, puis voilà, les industries, etc., qui travaillent pour l'armée. Donc ça a été un gros coup, et voilà. Et tout de suite après, je me suis dit, je ne suis plus dans une galerie, terminé en ce qui concerne le fait de comment je vais pouvoir vivre. Surtout que ces pièces, Sonnabend n'arrivait pas à les vendre, c'était trop sophistiqué. Elle n'a même pas pu vendre le cône pyramide qui reste une pièce que personne n'a jamais achetée sauf des privés, mais jamais un musée n'a pris cette initiative d'acheter une pièce parce que ça demande un guide, on ne peut pas laisser le stéthoscope à la portée des gens. Donc en ce moment par exemple au musée des arts premiers qui est Branly, ils ont emprunté cette machine à mon galeriste Hervé Lovenbruck pour la faire marcher. Et j'ai dit, faites un film avec, je viendrai faire un film et vous montrerez le film à côté de la machine parce que vous ne pouvez pas évidemment avoir quelqu'un constamment sur cette machine-là. C'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est une machine qui est bien connue. Extrêmement connu et qui n'est dans aucun musée d'art contemporain. C'est magnifique.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. You stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true.
truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. And may you stay forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy, may your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay forever young.
J'ai fait tout de suite une. J'ai eu cette idée de. J'avais un loft qui était au premier étage d'un building qui appartenait à Claes Oldenburg et Larry Rivers. J'occupais le premier étage. C'était un gigantesque loft qui passait de la 13e à la 14e. Et là, j'ai invité une quarantaine d'artistes à faire une exposition d'un objet qui et l'exposition s'appelait About 405 East 13th Street. Voilà. Donc chacun a fait son petit numéro. Nam June Peck, là où j'ai oublié les noms. On va, peu importe. C'est difficile, peu importe, non, parce que si je ne sais pas de nom, je ne peux pas parler. Philippe Glass, voilà, je voulais parler. Je l'ai invité, c'était un copain aussi qui est venu. D'ailleurs, il est venu installer la chaudière à gaz dans ce loft-là, précisément. Tout le monde était pauvre. J'étais le plus connu, en fait. Nam June Peck, tout ça. Ils m'ont dépassé de largement quelques années plus tard. Mais à ce moment-là, j'étais le plus connu. Quand je pense que j'ai invité Richard Serra, qui n'était pas un homme qui faisait des performances. Ça se passait justement en 1973 ou 1974, où The Kitchen m'avait invité à faire ce que je voulais faire. En allant voir The Kitchen, c'était un endroit où on faisait de la musique électronique. Nam June Peck était le petit enfant chéri. Et qu'est-ce que je disais? Alors oui, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas encore Fluxus, je connaissais les Fluxus. Mais ce que je ne connaissais pas, Georges Machunas, je ne le connaissais pas. Donc je dis à Serra, il faut faire une performance. Et il me disait, mais qui as-tu invité? Et moi, bon Auvergnat, je dis, ben, j'ai invité des artistes connus, donc celui que je viens de vous citer, et Charlemagne Palestine, comme ça. J'attendais pas deux secondes. Oui, d'accord, je suis d'accord. Donc j'avais les 40 personnes qui, à ce moment-là, étaient les futures stars. Le menu des 40 artistes que j'ai invités, c'est considérable. Ça avait attiré à peu près 500 personnes, et on en a reçu 300. Il n'y avait pas de possibilité d'en recevoir plus. C'était trop petit, la question. Donc, et ça s'appelait, quand j'ai visité la kitchen, j'ai vu un gros four. Il y en avait même deux. Et ça m'a tout de suite dit, l'idée de dire, bon, bah, écoutez, j'ai tout de suite répondu, je suis d'accord, ça va s'appeler soupe et tarte. Et pour ça, j'ai dû partir, donc c'était en 73, et j'ai dû, en juin, aller à Paris. Je connaissais le patron d'un restaurant à la Bastille, Boffinger, très connu, un grand restaurant, il était le propriétaire, et je lui dis, est-ce que tu veux que je voudrais apprendre à faire des soupes et des tartes? Il me dit, patron, achète un chapeau, non, tu n'as même pas besoin d'acheter ce chapeau, tu achètes une blouse et puis voilà, tu feras. Tu viendras. C'était un copain, tu vois. Donc j'ai passé tout l'été, pendant 4 mois, à apprendre à faire des soupes et des tartes. Puis d'autres choses, des omelettes, des trucs comme ça. Ce qui a été très utile par la suite, parce qu'après, comme je n'avais pas de galerie, j'ai dû faire la... Je suis passé comme pour un cuisinier. Alors que vraiment, je ne savais pas faire la cuisine. Enfin, comme un cuisinier français, évidemment. Mais à New York, on peut tout faire, c'est magnifique, c'est une ville ouverte. Enfin, à ce moment-là, ça reste encore, je crois, très ouvert quand même. Donc j'ai fait faire par une dizaine de copains, copines, je leur ai appris à faire la pâte. Et on est allé deux ou trois, la veille, au Bronx, au grand marché de New York, acheter des kilos de pommes. Et des pommes de terre pour faire la soupe, et des poireaux, etc., pour faire la soupe. Et puis, pour faire les tartes, tout ce qu'il fallait, quoi, le beurre, les trucs comme ça. Et la pâte et la farine, et deux jours avant, tout le monde s'est mis à faire. Et il faisait très froid, d'ailleurs. C'était au mois de novembre, fin novembre, je crois. On avait tout mis, parce qu'il faut mettre les pâtes, une fois que ça, c'est bien, la boule est faite, au froid pendant quelques heures, ou même pendant plusieurs jours. Il faisait très très froid à New York. On avait fait aux fenêtres, on avait mis les boules comme ça. Et on a fait des excellentes tartes, une soupe magnifique. Magnifique. Ça a été un grand événement à New York. Et moi, ça m'a donné cette idée de faire des performances collectives. Donc j'ai continué chaque année, j'étais condamné à faire ça. Condamné, quelle jolie condamnation. Georges Massurès, la rencontre a été assez rapide. Après l'exposition de Swimming on a Reveling Stage à Johnson Church à New York, où j'avais mis cette scène tournante, où j'avais invité les meilleurs. Ils avaient 2, 3, 4 minutes, pas plus, à faire chacun, tu vois, il y en avait pas mal. Chacun son tour. Simone Forti, qui était une grande danseuse, m'avait dit « Il y a Massionas qui cherche un loft, qui veut vendre son loft, son workshop. Est-ce que tu veux l'acheter ?» Je dis « J'achète tout de suite. J'ai pas d'argent, mais je l'achète. Ben, va le voir. Il attend quelqu'un qui l'aime. Il veut pas le vendre à n'importe qui. Il veut le vendre à un artiste. » Donc j'ai été voir Russell Street, sous-sol, Georges Massionas, pour la première fois, je voyais cet homme qui me dit, en anglais, « Mais vous venez pas avec un avocat ?»« Pourquoi faire ?»« Bah, je vais vous rouler. » Je dis, « Écoutez, je suis auvergnat. » Alors, je me défendrai. Ça a commencé comme ça, et ça a commencé très bien. Parce qu'on s'est tout de suite trouvé rigolo, tu vois. Et ça a été tout de suite... Immédiatement, on a accroché, quoi. C'était magnifique. Je lui dis, j'ai pas un sou. Je peux te passer peut-être 1000 dollars. Il me demandait 23 000 euros, dollars. C'était rien pour un loft qui avait 250 mètres carrés ou 300 mètres carrés. C'est rien du tout. En plein saut. C'était rien, rien. J'avais pas. J'ai téléphoné à ma mère. J'ai réussi à avoir 3000 euros qu'elle m'a envoyés. Et j'ai eu des histoires de famille par la suite, parce que je n'ai jamais remboursé. Enfin bref, ça c'est des parenthèses. Je voulais quitter le loft du Lower East Side pour aller là où tous les artistes allaient. Ouais. C'était beaucoup plus commode. Ça a été un quartier d'artistes, et c'était Georges Massionas qui a eu l'idée. Il nous a tous réunis. Par exemple, dans le loft, il y avait Simone, il y avait Nam June Paik, il y avait 8 lofts. 4 et 4. Et donc, Georges, 8 jours après cette visite, on était chez le notaire pour signer un contrat où j'étais propriétaire d'un loft à Broadway. Mais n'importe quoi, je lui ai donné 3000 euros de dollars. Qu'est-ce que je lui ai donné par la suite? Je ne sais pas. Je ne lui ai rien donné du tout. On est devenu... Non, je lui ai donné beaucoup de choses, mais pas de l'argent. Je lui ai donné un peu d'argent, peut-être. À la fin de sa vie, il a eu une fin épouvantable. On se réveille un matin, si je vous raconte tout ça, c'est fou, quoi. Mais ça a été... Et lui, à ce moment-là, il vendait son loft parce qu'il a été... il a failli être tué par la mafia à qui il devait de l'argent. Il ne m'a jamais expliqué comment ni pourquoi, mais il était obligé de se déguiser en femme et de quitter la ville même parce que il craignait pour sa vie d'un côté et pour les impôts de l'autre. Voilà, donc... alors le loft, j'ai fait ce que lui faisait déjà bien avant moi. Il avait, mais lui, c'était sous le nom de Fluxus. Ben, j'ai repris tout ça. J'avais commencé sans lui et j'ai continué avec lui. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais une chose, il était présent. Et inversement, quand il m'invitait, j'étais présent. Voilà. Et on a été des copains, quoi.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
De Georges et que j'ai fini par inviter pendant des années jusqu'en 84, il y avait une grande salle où on faisait de la danse, on faisait des expositions, d'objets, on faisait tout ça. J'arrêtais pas. Chaque année, c'était avec Christian Xatrec et sa femme à ce moment-là, Émilie Harvé, qui avait 3 sous. Donc, je louais une partie même pour qu'elle, qui était devenue son bureau. En partie, une petite pièce. C'était très grand. Donc, ça servait de tout. On vivait pas bourgeoisement. Quand je recevais des gens, je les couchais dans la grande salle, etc. C'était l'époque des années 70 à New York. C'était une famille où les grands artistes qui allaient être des grands artistes, comme tous ces gens que j'ai cités, il n'y en a pas beaucoup, mais la plupart sont devenus des grands artistes, ou une grande partie. On était tous les uns dans les autres. Il y avait des sculpteurs, il y avait des peintres, il y avait des gens qui faisaient des performances, mais tout ça, c'est se mêler. C'était des multimédias, comme on dit, ou des mixed médias, ou des intermédias, comme des Kings. C'était tout ça, mais c'était grâce à Georges, parce qu'après, ce qui s'est passé, ça m'a tourné, parce que une fois que les artistes ont occupé des lofts pour rien, pour des prix dérisoires, les galeries ont suivi. Alors, West Broadway, il y avait des grandes galeries. Castelli, Sonaben, s'occupaient des grands espaces gigantesques. Et c'est devenu bourgeois. Les bourgeois sont installés. Petit à petit, on chassait les artistes. Parce qu'il fallait changer les ascenseurs, il fallait changer tout ça. Les toitures et tout ça, on n'avait pas l'argent. Donc on laissait les choses tomber, on nous offrait de l'argent pour aller ailleurs. Et c'est devenu le quartier le plus dégoûtant, le plus horrible, le plus bourgeois, le plus immonde, le plus insupportable. Je suis parti en 84, je vais vous dire pourquoi. Pour une raison, il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est que les galeries s'étaient installées sur le Lower East Side, où ils vendaient dans les boutiques qu'ils louaient comme ça, n'importe qui. Il y avait les collectionneurs qui venaient le samedi et le dimanche acheter n'importe quoi à tous les jeunes, et c'était devenu insupportable. Et Soho était devenu les nippes, les bars, les restaurants, voilà, tout insupportable.